Les gars, êtes-vous prêts pour l'Omnium Banque Nationale?
Ok, oui.
C'est parti!
Salut, salut les gars, très content de vous retrouver le matin cette fois-ci. D'habitude, on enregistre en après-midi, mais aujourd'hui, café à la main, petit déjeuner et on se lance pour l'Omnium Banque Nationale. Messieurs, êtes-vous fébriles? Première journée du tableau principal, Nico?
Mais il faut être fébrile. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ce moment-là avec surtout l'annulation du rendez-vous l'année dernière. On a un peu sur notre fin, on a hâte que ça commence. Plein de belles histoires à raconter, plein de beaux moments qui s'en viennent, qu'on aura à vivre. Tellement content de faire ça avec vous, les boys.
Hugues, je sais que toi, t'aimes regarder un petit tennis avec un petit mimosa le matin, mais là, cette semaine, tu pourras pas. T'as-tu déjà sorti le mimosa? Non, pas d'alcool, tu travailles quand même.
Je vais le sortir quand je vais regarder un match de demi-finale avec un ou une Canadienne plus tard cette semaine, avec plaisir. Mais c'est tellement une belle semaine. Moi, depuis aussi loin que je peux me souvenir, c'est une de mes semaines préférées de l'année, la semaine de l'Omnium Banque Nationale, du tournoi à Montréal. Ça rappelle plein de souvenirs. Donc, on est très content de commencer cette semaine.
Ah, je suis tellement d'accord avec toi. C'est une des plus belles semaines pour nous. Surtout qu'on est le podcast, émission de radio officielle de l'Omnium Banque Nationale. C'est un projet qu'on a commencé il y a un peu plus d'un an. L'année passée, Nico, je sais pas si tu te souviens, mais on était déçus de ne pas avoir d'Omnium Banque Nationale à l'époque qui s'appelait Coupe Rogers. Et on avait fait notre top 5 des moments. D'ailleurs, si vous avez une chance d'aller écouter ça, Nico a des choix particulier pour son top 5 des grands moments de l'Omnium Banque Nationale. Vous pouvez voir ça sur notre Spotify, Apple Podcasts, YouTube, le site de Tennis Canada. On est un peu partout. Alors, messieurs, c'est parti. L'Omnium Banque Nationale, première journée aujourd'hui. On met la table pour le tournoi. On va regarder les match-ups à surveiller. Mais d'abord, avant qu'on tombe précisément dans l'Omnium Banque Nationale, comme on est lundi, je veux qu'on fasse un petit retour sur ce qui s'est passé à Washington, parce qu'il y a un petit gars qu'on surveille depuis très longtemps qui commence à nous en faire voir de toutes les couleurs, et son nom, c'est Yannick Sinner.
Oui. Quelle finale contre Mackenzie McDonald. Je suis en train de reviser même, je pense, mon premier tour où j'ai mis Benoît Paire gagnant contre McDonald avec la qualité de jeu qu'il a amené. Mais Yannick Sinner, c'est une des grandes histoires de l'ATP en ce moment. Un des next-gen qui fait peur à beaucoup de monde en ce moment. Quel beau joueur de tennis. Quelle force de caractère pour son âge aussi. Je pense qu'il va nous en faire voir aussi toutes les couleurs cette semaine à Toronto.
Nico, toi, tu l'as loin dans ton tableau cette semaine à Toronto, mais tu as pensé quoi de cette performance-là de Yannick Sinner? J'imagine que tu n'es pas très surpris d'une certaine manière.
Non, je ne suis pas surpris, mais je suis quand même toujours étonné. À chaque fois que je le vois jouer, on dirait qu'il s'améliore de tournoi en tournoi. Tellement une force de caractère exceptionnelle. On l'a vu notamment en demi-finale contre Brooksby. Plusieurs balles de match, ça ne fonctionnait pas, n'arrivait pas à trouver la clé pour finalement planter le dernier clou dans le cercueil de Brooksby, finalement a réussi, mais je trouve qu'on a vu tout l'étendue, oui, de son talent, mais de son caractère, ce qu'on avait un peu moins vu. On sait que c'est un joueur avec un talent pur, c'est un talentueux, sûrement un top 5 là, au cours des prochaines années, mais cette force de caractère, cette espèce de hargne, on l'avait moins vu, et l'on l'a vu en demi-finale à Washington, et ça augure très, très bien pour l'Omnium Banque Nationale et pour mon pool.
C'est son troisième titre, il faut le souligner, premier ATP 500, donc bravo à Yannick Sinner.
Ouais, il va arriver en pleine confiance à Toronto, et on l'a vu souvent ça, des gens qui ont fait des belles performances à Washington poursuivre avec des belles performances au Canada. Messieurs, il n'a pas 20 ans encore, et remporter ce tournoi-là en bas de 20 ans, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, mais il y a des joueurs comme Andy Roddick et Juan Martin Del Potro. Ça vous donne une idée de la qualité de ce joueur-là et du joueur, du type de joueur qui pourrait devenir un puissant serveur également. C'est déjà un joueur qui fait beaucoup de vagues et qui s'impose. Comme tu disais, j'ai presque plus envie de dire que c'est la next-gen parce qu'il est là, il y a Yannick Sinner, il est déjà parmi les meilleurs au monde.
Ouais. Et aussi, il faut le souligner, les gars, on parle souvent du tennis canadien, du tennis russe. Mais les Italiens, avec Berrettini à Wimbledon, avec Sinner, Fognini qui est jamais très loin aussi, il faut le souligner, les Italiens s'en viennent pas à peu près. Même, ils sont pas mal déjà là, j'ai envie de dire. Là, mais il ne faut pas les écarter trop rapidement.
Musetti, oublie pas Musetti. Aussi, malheureusement, il ne pourra pas être à Toronto cette semaine pour des raisons de protocole sanitaire. Mais ils ont une relève fantastique en Italie en ce moment.
Et messieurs, à San Jose, c'est Daniel Collins qui l'a emporté contre Daria Kasatkina. Elle va être à surveiller, elle aussi, Daniel Collins. Elle va arriver avec beaucoup de confiance. Alors voilà, messieurs, pour les résultats des derniers tournois, on peut maintenant passer à l'Omnium Banque Nationale, notre tournoi, celui qu'on va couvrir à tous les jours. On a déjà commencé à publier beaucoup de trucs. On a plein de choses intéressantes également qui s'en viennent. Et un de ces éléments intéressants-là, c'est Séverine Tamborero qui se joint à nous pour revoir un peu ce qui s'est passé en qualification ce week-end. Séverine, c'est une grande entraîneuse de Tennis Canada, entraîneuse, coach. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent et suivent le tennis autant que cette dame du tennis-là au Canada. Alors Séverine, merci de te joindre une fois de plus au podcast Sur la ligne.
Ben avec plaisir, m'avoir su, j'aurais suivi Hugues, puis j'aurais pris mon petit mimosa et mon petit café on the side aussi ce matin.
Es-tu capable de performer sur l'alcool aussi? Moi, je sais que c'est jamais d'alcool en travaillant.
Mais quand c'est bonheur, comme ça, on se remet rapidement, c'est pas pire.
Ah, bon, des trucs. Pour des trucs de performance, Séverine Tamborero, elle a son site. Peut-être que ce truc-là est sur son site, qui sait. Séverine, je voulais que tu viennes nous parler aujourd'hui parce que, bon, il y avait 7 Canadiennes en qualification, notamment à Montréal. 7 joueurs que j'imagine tu connais très bien pour la plupart. Peux-tu un peu nous parler de ce qui s'est passé? Parce que c'est dommage un peu parce que ces 7 joueuses-là ont perdu à leur match de premier tour, incluant Françoise Abanda. Là. Toi, est-ce que tu t'attendais à voir ces joueuses-là avancer ou c'est des bonnes performances dans leur cas?
Écoutez, moi, je m'attendais sincèrement à absolument rien. On est parti d'une année et demie où, comme vous le savez, avec mon travail, moi, mon travail premier, c'est de me promener, d'aller voir les jeunes, d'aller voir les entraîneurs. De pas faire ça pendant un bout de temps, c'était difficile. Fait que je peux vous dire de mettre le pied dans le stade samedi avec des spectateurs, avec des joueuses, c'était juste ça, c'était exceptionnel. L'autre chose qu'il faut penser aussi, c'est que moi, je trouvais ça génial de voir qu'il y avait 7 Canadiennes et là-dedans, on s'entend qu'il y en avait qui avaient en bas de 17 ans. Et ça, c'est aussi... je vous dirais l'opportunité de ce qui est en train de se passer. Il y a eu des changements, il y a des joueuses qui sont pas là, on a quand même un super tableau, mais ça donne la possibilité à ces jeunes filles-là. Fait que déjà d'être là, de vivre l'expérience contre des jeunes femmes qui ont 5-6 ans de plus, sincèrement, juste ça, c'est exceptionnel. Je pense que quelqu'un comme Françoise Abanda, écoutez, Françoise, vous le savez, vous avez de l'expérience, elle drive par les gens, le public. Ça n'a pas fait exception. Elle a joué un tennis incroyable en qualification. Elle jouait quand même Garcia. Fait que pour moi, je pense que Françoise, c'est une des joueuses qui a toujours eu, qui a encore le potentiel pour être vraiment super bien classée et de faire des tableaux principaux. Malheureusement, ben elle a eu une joueuse qui est un petit peu plus compétitrice. Et quand je dis compétitrice, ça ne veut pas dire meilleure, mais qui a eu beaucoup plus de tournois sous la ceinture cette année avec tout ce qui s'est passé que Françoise. Puis ça fait la différence. Mais nos jeunes Canadiennes, sincèrement, c'était pas une tâche facile, mais de les voir sur le terrain, j'ai parlé à certaines d'entre elles, dont deux, Coopris et Kayla Cross, que j'ai fait une tournée de 4 semaines avec elles cet hiver, là, au mois d'avril et mai. Et puis, même les filles le disaient, c'était court, c'était pas simple, mais quelle expérience. Fait que ça donne une motivation, un élan pour le reste de l'année, ça c'est certain.
Ah ben, je suis content d'entendre ça que ces jeunes filles-là sont contentes de leur expérience. Je sais que tu nous avais parlé justement, je pense, de Kayla Cross la dernière fois que tu étais venu nous parler, comme quoi c'était un talent à surveiller. Et pour en revenir rapidement à Françoise Abanda, c'est ça qui est dommage un peu dans son cas, c'est que quand on regarde les match-ups de qualification, c'est elle qui avait l'adversaire la plus compliquée. Caroline Garcia, ouais. C'est une bonne joueuse de ce circuit-là quand même. Les qualifications de Masters 1000, des fois, tu vas frapper des bonnes joueuses et Caroline Garcia était de loin la meilleure joueuse dans les affrontements canadiens. Peut-être que si elle avait eu un tirage différent d'une certaine manière, peut-être que ça aurait été plus simple. Est-ce que tu étais, je ne sais pas si tu as vu son match, je ne sais pas si tu lui as parlé, mais est-ce que c'était une performance acceptable dans le contexte parce qu'elle n'a pas joué beaucoup Françoise Abanda dans les dernières années?
Oui, puis non, je ne lui ai pas parlé après, mais j'ai vu une partie de son match. Puis on le dit toujours, hein, on dit toujours, mon Dieu, Françoise, on a tellement hâte qu'elle a un classement à l'image de son talent. Et c'est exactement ce qu'on a vu comme match. Un match où elle a fait des choses que seulement quelqu'un qui a un talent, qui a un potentiel, qui a une facilité, qui est capable de faire. Et de le faire justement avec bon, elle a eu des blessures, il y a eu la pandémie, il y a eu un manque de tournois. Son classement ne la fait pas rentrer dans certains tournois. Ça va être difficile de revenir. Mais j'espère que pour elle, ce que ça a fait, c'est que ça lui a prouvé qu'elle a encore du tennis en elle. Puis j'espère que les prochains mois vont le démontrer aussi par les résultats. Mais Alex, tu l'as bien dit, hein, on dit toujours cette fameuse expression « luck of the draw ». Alors, pour le tennis, ça change pas. Effectivement, ça joue dans les résultats des joueurs et des joueuses.
Et dans ton amorce, tantôt, tu as dit « Je crois encore à Françoise Abanda et je pense qu'elle peut encore devenir parmi les bonnes joueuses mondiales. Chez les juniors, c'était une des meilleures juniors au monde. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Les attentes étaient très grandes alors qu'elle avait 14-15 ans. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle a encore le potentiel de revenir, je ne sais pas si c'est parmi l'élite mondiale du tennis, mais au moins une joueuse constante, disons-le comme ça, sur le circuit de la WTA?
Oui, bonne question puis très bon commentaire. Je pense que son but, c'est d'être constante puis d'avoir des bons résultats, mais pas sporadique, qu'il soit toujours là. Vous savez, j'en vois beaucoup de juniors puis on les voit au niveau professionnel, l'écart est quand même très grand. Hein? Je dis toujours, quand on est junior, on joue comme une jeune fille et quand on arrive, on s'en va vers les professionnels, on doit devenir une femme. Pas juste sur le plan tennistique, mais sur le plan de maturité. Et je pense que là, Françoise, elle arrive un moment, parce que vous le savez, hein, on vient d'en parler, il y a la chance, il y a ton potentiel, il y a ton talent, il y a aussi la volonté de vouloir s'y rendre. Puis là, je pense que Françoise commence à voir tout ça, là. Et c'est ce qui me fait dire que, d'après moi, si elle est capable d'avoir des bons résultats, d'avoir un peu de chance aussi, elle va en avoir besoin, comme beaucoup des filles qui sont dans le même niveau qu'elle, je pense qu'elle va être capable de s'y rendre. C'est sûr qu'il reste moins de temps qu'en restait peut-être. On sait que l'âge moyen chez les filles, c'est à peu près 29 ans, 30 ans. Donc, il en reste encore quand même beaucoup. J'espère juste qu'elle va pouvoir avoir un élan avec au moins le tournoi qu'elle a eu en fin de semaine.
Est-ce que elle, comment je pourrais dire ça, c'est encore son objectif de rester et de devenir une bonne joueuse de tennis?
Quand tu as 24 ans, le tennis fait partie de ta vie et là, elle est rendue en bas, il faut qu'elle monte les échelons, il faut qu'elle fasse des tournois des fois complètement à l'extérieur du pays, puis elle est encore sur les terrains de tennis. J'espère que c'est parce qu'elle y croit. J'espère que c'est parce qu'elle veut vraiment atteindre ces niveaux-là. Je lui ai pas parlé, je la connais quand même très bien. Puis je pense qu'avec toute la situation qui est alentour d'elle en ce moment, puis d'avoir sur le terrain, puis sachant qu'elle veut revenir, moi je pense qu'elle le fait pour les bonnes raisons, en tout cas.
Et juste revenir sur un point que tu as fait tantôt, tu sais, la marge entre les juniors et les professionnels, elle est incroyablement haute et c'est particulièrement vrai chez les filles, je dirais, parce que il y a beaucoup de jeunes femmes qui passent chez les pros plus rapidement que chez les hommes. Je pense que tu me diras si je me trompe, là, tu connais le mieux le circuit junior que moi, mais je pense que les juniors hommes restent un peu plus longtemps sur le circuit junior, alors qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui font le saut chez les professionnels. Est-ce que je me trompe?
Non, c'est un très bon commentaire. Effectivement, les filles atteignent les niveaux un petit peu plus rapides que les garçons, mais vous venez de parler de Sinner, hein? C'est drôle parce qu'on commence à voir de plus en plus de jeunes hommes, 19 ans, 20 ans, 21 ans. Hein? Quand on pense à Félix puis à Denis, ils ne sont pas très, très vieux non plus. Fait qu'on commence à voir aussi là, qu'au niveau des hommes, là, ça commence à rentrer dans les classements un petit peu plus jeunes, puis ça reste. Et c'est ça qui est super intéressant en ce moment, c'est qu'on a vécu pendant des dizaines d'années avec trois noms, Djokovic, Federer et avec Nadal. Puis là, de voir tous ces jeunes-là qui embarquent, ça change toute la perception du tennis. Puis oui, chez les filles ont des entrées un petit peu plus tôt. Mais maintenant, le fait que l'âge moyen est beaucoup plus tard, ouais, ce qui est intéressant puis ce qui est super important aussi pour le niveau des entraîneurs, c'est de prendre le temps. Des Kogoff, là, il n'y en a pas 50 000. Des Osaka, il n'y en a pas 50 000. Donc, ça va être important pour nous, en tout cas pour nos jeunes Canadiennes. Là, elles ont vécu une expérience qui peut-être avec des tableaux complets n'auraient pas vécu de toute façon. Là, il faut qu'elles prennent ça et qu'elles disent « OK, c'est quoi la prochaine étape » puis qu'elles s'en servent puis qu'on prenne notre temps. Si elles arrivent un petit peu plus tard, dans 2 ans, 3 ans, c'est parfait. Puis, comme tu disais, Alex, tantôt, l'important, c'est pas juste de s'y rendre, c'est d'y rester. C'est toujours ça, la marche qui est la plus difficile.
Oui, puis, tu sais, on parlait tantôt de la marche entre les juniors et les pros. T'sais, moi, j'en ai vu dans le passé pour en suivre beaucoup de juniors, des numéro 1 mondial juniors, autant chez les hommes que chez les femmes, qui n'ont pas explosé chez les pros. Puis malheureusement, on a un bel exemple au Canada quand tu regardes un gars comme Philippe Pilivaud qui était incroyable chez les juniors, qui prenait des photos avec Federer, qui a gagné, qui a fait les 4 finales de Grand Chelem. Et malheureusement, malgré que ce soit un joueur tellement intelligent sur le terrain, n'a pas été capable de percer, du moins jusque pour l'instant. Il va peut-être faire un excellent entraîneur, cela dit, là, mais quand on parlait de la marche entre les juniors et les pros, elle est là. Nico, tu avais une question pour Séverine?
Ouais, ben tu sais, on parle souvent, évidemment, des meilleures joueuses au monde, de l'élite mondiale, parce qu'évidemment, ce sont les joueuses qu'on connaît le plus. Mais lorsqu'on on s'attarde aux joueuses peut-être moins bien classées, ou du moins classées plus haut, comme Françoise, comme Carole Zhao, comme Rebecca Marino, à quel point, j'ai envie que les gens comprennent, à quel point c'est difficile pour ces filles-là de revenir dans les tableaux principaux, parce qu'évidemment, c'est pas les mêmes ressources, c'est pas les mêmes conditions que les joueuses de l'élite mondiale. Donc, à quel point c'est ardu ou difficile pour ces joueuses-là de revenir?
Je vais répondre avec un temps non pandémique, parce que c'est encore plus compliqué en ce moment. Je pense, Nico, comme tu le mentionnes, tout ça, c'est compliqué. Quand tu n'es pas dans un tableau principal, bien évidemment, tu dois te promener de tournoi en tournoi pour aller chercher des points. Mmh. Et on dit toujours, bon, ben quand j'étais des filles, si tu commençais dans le top 100, dans le top 70, c'est ça que tu vas aller chercher. Pourquoi? Parce que tu rentres dans les tableaux principaux. Mais pour avoir ce classement-là, faut que tu gagnes des matchs, faut que tu gagnes des tournois. Donc, c'est énormément de dépenses, c'est énormément de voyages. Très souvent, tu n'as pas ton entraîneur avec toi. Là, tu as du double, mais tu n'as pas de partenaire. Il faut que tu le fasses sur place. Il faut que tu organises ta cédule. Je vous dirais qu'en ce moment, pour les plus jeunes et les filles classées comme Marino, la partie planification est tellement, tellement importante. Où tu fais ton tournoi, à quel endroit, le nombre de joueurs et joueuses qu'ils ont dans ces tournois-là fait une grosse différence. Les grades aussi de tournois. Fait que tout ça, là, c'est pas si simple. C'est pas juste de dire on s'en va à un tournoi, on gagne, on a des points, puis on revient, puis on a accès à certains tournois. Et ça change continuellement. Parce que le meilleur exemple, c'est en ce moment à l'Omnium. Il y a des jeunes filles qui normalement feraient des tournois aux États-Unis en ce moment en préparation du US Open et qui sont restées parce qu'ils ont eu accès aux tournois dans les qualifications. Donc, ça change une planif. Donc tous ces facteurs-là. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de planification, c'est beaucoup de dépenses et c'est pour ça que d'atteindre un certain niveau, comme exemple Françoise, c'est pour ça que ça va être ardu, ça va être difficile, mais si elle est capable d'aller chercher un classement, ben ça va lui permettre de souffrir, pas souffrir, mais souffler un petit peu, puis justement de se dire, OK, là, je suis capable pour les prochains mois de me dire, je vais rentrer dans ces tournois-là, puis ça va faciliter beaucoup le reste.
Oui, ben Françoise, je pense pour les gens qui savent peut-être pas quand même, Caroline Garcia a été 4e mondiale déjà là, donc c'était une sacrée cliente pour un match de qualification. Elle est 63e en ce moment au monde. Donc souhaitons justement que ça sera un tremplin pour Françoise pour la suite. Je pense qu'elle peut en tirer beaucoup de positifs. Mais ça me ramène sur les Françaises. Je fais un petit switch vers les Françaises. 3 Françaises qui passent les qualifications. On sent que les Français et les Françaises aiment le tournoi au Canada. Amélie Mauresmo l'a gagné à 2 reprises, si je me trompe pas. Comment tu évalues la performance, mais surtout l'attitude des Françaises quand elles arrivent ici?
Ben, j'ai eu le privilège de faire les drives, la conduite avec les joueurs pendant plusieurs années. Et j'ai eu Alizé Cornet, j'ai eu notre super ami Gasquet aussi. Puis je posais toujours les questions, mais qu'est-ce qui fait que vous aimez Montréal? Puis pour eux, là, c'est d'être à la maison. C'est ouais. aussi simple que ça. Ça parle français. C'est des gens qui connaissent depuis des années. Puis que ce soit français ou non, je dois vous le dire, là, depuis des années, c'est ça que j'entends continuellement des joueurs. L'accueil à Montréal, ce que Eugène puis l'équipe, ce qu'on fait à Tennis Canada pour ces joueurs et joueuses-là, là, c'est pas vu beaucoup. Et on le voit, là, regardez à Toronto quand même, là, c'est un très, très bon tableau. Si on regarde à Montréal, il y a quand même des très bonnes joueuses. Sabalenka, Kvitova, Alep, qui se dit, mais moi, je reprends de ma blessure, je le fais à Montréal. Ça en dit beaucoup sur le tournoi, sur l'accueil. Mais les Français, c'est sûr qu'ils sont ici, sont contents, ça parle français. Et ça, quand t'es bien, ben évidemment, ça te fait performer. Puis pour revenir sur Garcia, faut pas oublier qu'elle a fait les Olympiques aussi.
Oui.
Ça lui a donné une semaine de plus sur Françoise avant d'arriver ici. Fait que ça aussi, ça fait une grosse différence.
Est-ce que de façon globale, tu dirais que tu es satisfaite, et je vais dire de tes joueuses, parce que d'une certaine manière, t'es un peu encore toute leur coach, même si tu coaches de façon plus intensément, je pense, les plus jeunes, mais tu les connais très bien. Est-ce que tu es satisfaite de la performance de ton équipe?
Moi, je suis très satisfaite de savoir qu'elles se sont présentées, pas juste pour être là puis vivre l'expérience. Et je suis satisfaite d'aussi entendre ces jeunes filles-là de dire « Hey boy, il y a une grosse marche, j'aurais dû faire mieux et je veux faire mieux ». Et ça, c'est ça qu'on veut entendre. Hein. On veut pas juste que ce soit « Ah, quelle belle expérience, c'était le fun. » C'est « Oui, oui, il y a une expérience qui est là. » Et la plupart, après leur match, ben, elles étaient complètement détruites, très déçues. Mmh. Et c'est ce genre d'attitude-là, en tout cas pour moi comme entraîneur, que je veux voir. Parce que ça veut dire qu'il y a un care, puis ça veut dire qu'elles comprennent que leur niveau de jeu doit augmenter. Sur plein d'aspects, on l'a vu, c'était assez évident sur le terrain. Fait que ça regarde bien pour le futur, en tout cas pour nos jeunes filles, ça c'est certain.
Et lorsqu'on parle de futur, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle souvent de la structure de Tennis Canada. À quel point, au cours des dernières années, l'appui que vous donnez aux jeunes joueurs et aux jeunes joueuses, notamment avec le Centre national, paye aujourd'hui et paiera au cours des prochaines années? Parce que déjà, c'est pas si vieux que ça. Et déjà, on voit les résultats qui sont probants. Donc, à quel point ça aide et que vous êtes satisfait de l'organisme et du système aussi?
Louis Borfiga, qui va nous quitter bientôt, on a tous pleuré notre vie sur un souper qu'on lui a fait samedi, dirait qu'il faut jamais être satisfait. Ce qu'on vit depuis certaines années avec le tennis, il y a un peu de chance, hein, faut le dire, là, il y a un peu de chance dans tout ça. Mais ça s'est travaillé par les structures, par les entraîneurs, les jeunes, le support qu'on leur a donné. Là, ce qui est super important, c'est de pas rester sur justement et sur cette vague-là de résultats et c'est de continuer de bâtir. On en parlait, il y a des plus jeunes qui sont en arrière. Il faut qu'on continue d'aider, supporter dans leur club parce que ça commence par là. Puis après ça, ben ça va grandir sur les structures canadiennes avec les centres régionaux et le centre national. Mais c'est certain que toute cette structure-là fait en sorte qu'on est où on est aujourd'hui. Il faut pas se contenter. Sincèrement, moi, je suis comme Louis là-dessus. Faut pas qu'on se contente. Faut qu'on continue d'aider, supporter ces jeunes-là qui sont déjà sur le parcours, mais ceux qui s'en viennent en arrière. Et ça, c'est jamais simple. Vous en parliez tout à l'heure, l'Italie, on n'entendait pas parler, on entendait Fognini, bon, c'est bon et tout ça, mais whoop, les jeunes arrivent, mais eux, c'est la même chose, hein. Ils n'arrivent pas sur le circuit comme ça, par hasard. Il y a des choses qui ont été faites au niveau du pays, beaucoup plus de tournois ITF, il faut que nous, on fasse la même chose, il y a plein de choses qu'on doit faire dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour continuer ce que Louis Borfiga a bâti depuis les 15 dernières années.
Et je veux pas te lancer de fleurs que pour te lancer des fleurs, mais tu sais, Louis Borfiga, il a bâti le tennis par la base. Et cette base-là, ben, c'est toi qui l'as développée en grande partie. Alors, je veux dire, félicitations pour ton travail parce que le monde, ils savent pas, tu sais, toi, tu les prends jeunes, ces joueurs-là, et tu les accompagnes jusqu'à leur, chez les professionnels. Et souvent, les gens voient que les professionnels, mais ils oublient peut-être les gens qui sont derrière ça, qui ont mis la main à la pâte et en grande partie, tu es responsable. Et comme je te dis, je ne vais pas te lancer des fleurs que pour le faire, mais je vais le faire. Merci pour ton travail et félicitations. Puis je suis content que tu puisses récolter les fruits de ton travail et de voir tous ces talents-là exploser. Séverine, te sens-tu à l'aise pour rester avec nous quelques minutes, parler des qualifications chez les hommes?
Avec plaisir.
Parce que je veux parler d'un gars que nous, on a déjà accueilli au podcast, que moi, je suis depuis longtemps, Braden Schnur, qui a pu se qualifier. C'est un gars dont on parle pas beaucoup, qui a eu des résultats bien intéressants ici et là. Sa carrière a été marquée un peu par les blessures récemment, mais c'est quand même un joueur qui va faire, les gars, son quatrième tableau principal. Et ça, c'est impressionnant pour un joueur qu'on ne parle pas beaucoup. Et la plupart du temps, c'est parce qu'il s'est qualifié à Montréal, qualifié au Canada. Et ça m'amène à te poser la question suivante. C'est peut-être cliché dans le monde du sport, mais est-ce que jouer à domicile, c'est un avantage, Séverine?
Bon, premièrement, je dois, vu que tu ne m'as pas donné le pot, mais des fleurs, je dois te remercier. C'est très gentil pour les gentils mots que tu viens de dire. Ça touche beaucoup. Maintenant, est-ce que c'est un avantage? Moi, je pense que pour le tennis, parce qu'on a commencé à bâtir une culture, beaucoup d'équipes avec la Billie Jean King Cup, avec la Davis Cup, c'est quelque chose qu'on a commencé à dire, hey, on veut ça. Bien, on voit, puis on l'a vu avec Abanda, quand les gens sont dans les estrades, les joueurs adorent ça. Oui, il y a une pression, on l'a vu, puis on ne va pas en parler, mais souvenez-vous d'Eugénie Bouchard, quand elle est venue à Montréal, à quel point c'était. S'il fallait qu'on lui pose la question, est-ce que c'est un avantage jouer chez toi? La réponse va être assez claire, non. Mais pour connaître Braden, écoutez, c'est un gars qui drive sur le tennis. On parlait de sacrifice, mais ces joueurs-là, là, qu'on appelle des joueurs de transition, qui a été avec Fred Niemeyer pendant combien de temps? Ouais. Une équipe exceptionnelle. Fred a fait du travail avec lui, mais super. Puis aujourd'hui, il doit se retrouver sans entraîneur, voyager tout seul, essayer justement de monétairement, hein, vous savez, il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions là-dessus dans les derniers mois, et de le faire avec ses propres subventions à lui et ses propres moyens. Merci Alex. Mais de le voir se qualifier, là, tout le monde est content de voir Braden qui est là, puis qui se qualifie, puis qui le fait par la porte d'en avant. Là. Il a joué ses matchs, il les a gagnés, il a bien fait ça aussi. Donc, j'espère que pour lui, avoir eu ces matchs-là derrière, jouer à Toronto, il adore jouer avec la foule. Je lui souhaite vraiment de passer à travers le tableau puis de le faire pour qu'il se rende vraiment au niveau de son potentiel, parce que c'est tout un joueur de tennis.
Messieurs, si je ne me trompe pas, là, et peut-être que je vérifie, mais je pense qu'il avait gagné l'année que Krejcikova et Siniaková étaient en finale à Repentigny. Il avait gagné ce tournoi de Repentigny. En tout cas, c'est dans les mêmes années. Là.
Moi, je crois que oui, puis j'aurais tendance... Est-ce que c'était contre, d'ailleurs, Hugo Difeo? Ou en demi-finale, Hugo, que j'entraînais dans le temps, je pense qu'il était en demi ou en finale, mais je pense, Alex, que tu as raison.
Et, tu sais, je pense que je vais devenir le principal ambassadeur du tournoi de Repentigny, là, et je me répète parce que j'en parle à peu près à chaque show, là. Mais tu sais, c'est un tournoi que on a vu de grands champions, et Braden l'a remporté, ce tournoi-là. Alors, j'étais très content pour Braden et je voulais qu'on puisse en parler. C'est un puissant serveur qui a fait, lui, qui est passé par les collèges américains et qu'on a vu en finale à New York il n'y a pas si longtemps. À New York, évidemment, pas le US Open, là, mais le tournoi qui était disputé au Madison Square Garden. Et dans les autres matchs de qualification chez les hommes, on avait Paul Hanski et Steven Diaz. Eux, c'est plus des joueurs de type challenger. Steven Diaz, je pense, si je ne me trompe pas, est un peu plus à l'aise sur terre battue. Tu as pensé quoi de leur performance à eux rapidement?
Bien, écoutez, c'est sûr que c'est toujours intéressant de voir nos Canadiens. C'est toujours décevant de voir des Canadiens qui ne passent pas à travers des qualifications. Puis comme je disais, puis on en parlait, Paul Hanski, c'est, je veux dire, il a 30 ans, je pense, maintenant, où il n'est pas loin, d'être encore en train de s'entraîner puis d'essayer de passer sur des tournois. Je veux dire, si on se demande s'il est passionné par son sport, je pense que la réponse est oui. C'est sûr qu'on aurait aimé avoir plus de Canadiens. Et c'est un petit peu le défaut d'avoir autant de bons résultats avec des Chapovalov, des Félix Auger-Aliassime, parce qu'on se dit, puis des Miloche et des Vachek, on se dit, ah, ils sont dans le tournoi, je sais que Miloche n'est pas là, mais c'est comme, on est vraiment dans le top 10, dans le top 15, puis ces joueurs-là, on les oublie un peu, Mais je pense que la déception de ne pas les voir dans le tableau principal, elle est quand même là. Et je suis sûre qu'ils sont très déçus. Donc, ils ont joué des bons matchs, puis encore une fois, très court d'arriver, puis de faire comme Braden et de se rendre dans le tableau principal.
Séverine, merci infiniment pour ta participation. Les gars, je pense que vous comprenez pourquoi est-ce qu'elle est dans cette position-là et que nous autres, on est juste des observateurs et commentateurs. Séverine est dans une ligue à part. Merci pour tout, Séverine. Bon tournoi et merci pour ton travail et continuer de développer cette base-là. Et tu reviens nous jaser quand tu veux. Tu as vraiment la carte chouchou du podcast sur la ligne. Tu reviens quand tu veux.
Ben écoutez, quand vous voulez, ça me fait plaisir d'être avec vous. Puis bonne semaine à vous. Et on se souhaite, comme Hugues le disait, des Canadiens en demi-finale. On va voir avec ce qui va se passer avec Léla ce soir. Et malheureusement, si elle gagne, elle va jouer Bianca. Donc, ça va être intéressant, mais un bon tournoi, je suis certaine qu'on va avoir tout le monde cette semaine.
Moi, j'ai osé prédire deux Canadiens en demi-finale du côté de Toronto.
C'est possible.
Donc, Alex, mais... deux Canadiens en demi-finale à Toronto, ben, je vais être obligée de revenir puis de te dire que tu as bien fait ça.
Écoute, Séverine, tu n'as même pas besoin de nous inviter. Écris-moi d'attendre notre invitation. Écris-moi un message. Peux-tu venir jaser avec vous? Puis on va toujours te dire oui. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Séverine.
Encore bonne semaine.
À bientôt. Bye-bye.
Bye-bye. Wow, les gars. Moi, ça, je suis content qu'elle accepte toujours de venir nous parler parce que vraiment, elle est dans une catégorie à part et d'avoir une femme qui connaît les joueurs de l'intérieur. Tu sais, nous, on le suit. Puis moi, j'ai été sur le terrain longtemps, mais je suis un peu, ben, dans les deux dernières années, ça a été un peu plus compliqué de l'être, là, notamment à cause de la COVID. Mais elle est encore là, elle a encore ses accès à l'intérieur et de pouvoir parler de façon aussi précisément des joueurs et de leur situation sur le terrain. Bref, c'est bien intéressant. Hugues, tu voulais faire un point supplémentaire sur les qualifs à Toronto?
Oui, ben on parlait de nos Canadiens avec quand même une belle réussite là, pour Schneur, puis Polanski qui a fait quand même un bon match en 3-7 à James Duckworth, mais c'était un tableau de qualification de Masters Mills, il faut le rappeler. Le premier favori, Francis Tifao, n'a pas été qualifié. Il a perdu 6-1, 6-4 son match contre le Finlandais Ruusuvuori. Feliciano Lopez n'a pas gagné son match aussi, qui était 11e favori du tableau. Donc, encore une fois, quand nos joueurs se frottent à ce type de tableau-là de qualif et qu'il y en a quand même un qui réussit à passer encore, je pense qu'on peut être quand même content là, de cette qualification-là de Braden Schneur.
Ça montre un peu se relever aussi, Hugues, hein, parce que tu sais, on parle de Tiafoe notamment qui a un parcours exceptionnel à Wimbledon. Et là, c'est qualifié pas pour l'Omnium. Ça montre à quel point il y a une parité, mais à quel point c'est difficile de s'y rendre aussi, tu sais.
Oui. Exact.
Ben, t'as 100% raison. Et puis, ça arrive souvent, ça. Tu sais, parce que, bon, un tournoi comme l'Omnium Banque Nationale, il y a un peu moins de joueurs que, à Indian Wells et à Miami, par exemple, ou dans les Grands Chelems. Et ce qui fait en sorte que les qualifications sont beaucoup plus relevées et beaucoup plus complexes là, dans un type de tournoi comme, justement, l'Omnium Banque Nationale. Messieurs, vous parliez des hommes. Regardons rapidement l'horaire de la journée. Il y a des matchs à surveiller. Il y a Vašek Pospisil qui est en action aujourd'hui contre Tommy Paul, qui est un qualifié. Ça devrait être un match intéressant pour lui, messieurs. Vous voyez ça comment, ce match-là? Nico, je commence avec toi.
Ben, je veux pas mettre trop de pression sur Vašek, mais il doit gagner. Il doit gagner ce match-là pour plusieurs raisons. Un, parce qu'on veut le voir avancer dans le tableau au Canada, mais aussi parce que contre un qualifié comme ça, Vašek doit revenir de plus en plus, jouer des matchs importants. Et là, c'est une belle opportunité pour lui de s'avancer dans un tableau je dirais pas qu'il pourrait l'avantager, mais dans lequel il pourrait être confortable, tout dépendant des adversaires qui vont le prendre au prochain tour. Mais Vašek doit gagner absolument ce match-là.
Oui.
Ouais, vas-y.
Je pense que Vašek a un match prenable pour son premier tour. Moi, je l'ai mis au deuxième tour là, sur nos sélections pour cette semaine. Bien de voir ça ce soir. Mais quelle journée incroyable déjà à Toronto sur le premier jour. Là tu montes le central seulement, mais sur le grandstand, il y a Lorenzo Sonego contre Hugo Humbert quand même qui va être un match à regarder. Ouais, tu le voici. Et oublions pas aussi le double avec Félix Auger-Aliassime. Maxime et Alexis Galarneau qui vont se frotter à la dangereuse paire russe de Atchanov Roublev. On commence sur les chapeaux de roue à Toronto aujourd'hui.
Messieurs, justement, parlant de Vachek Pospisil, nous, on lui a parlé en conférence de presse. Je vous propose d'écouter quelques clips du Canadien dans sa conférence de presse avant tournoi que voici.
Be back home, obviously playing our, you know, home Masters event is always a highlight, and I'm just happy that we're getting some crowd, some capacity for the matches, which is great. I was, you know, kind of worried for a second that we wouldn't have any fans and wouldn't quite be the same. It's still not quite the same, but I'm still excited and I'm sure there'll be a great atmosphere. So I'm looking forward to it. Yeah, I mean, I think that's one of the reasons why I especially love playing here or in Montreal is because I've had incredible memories and really kind of stepping stone moments for my career, be it, you know, my first ever ATP main draw match that I played, then match win, you know, having an amazing, felt like every year I had some kind of highlight early on, and it really, and then including my breakthrough obviously was the semifinal in Montreal. So, you know, beating Novak and Rafa in doubles when they were 1 and 2 in the world with Milos back when we were 19 years old or super young. So we've had tons of really, yeah, amazing kind of experiences, especially at a younger age before I kind of stabilized myself as a consistent tour player. So, yeah, you know, super special for me, obviously. Yeah, it's good. I mean, I kind of just want to go out there and do the best that I can. You know, I haven't had the most stable year with my team and training and a lot of things going on off court, a lot of distractions professionally, personally. So it's been, I think I'm really treating this week as kind of, you know, getting back to the basics of really, you know, training hard and just doing the best that I can and trying to get my team together again. And it's been tough. I mean, it's been tough for everyone in COVID. And, you know, last week I played good tennis, and I feel like I'm playing good tennis for sure. And I just need a little bit of momentum and a couple of matches under the belt to, you know, have a run. And hopefully that can be here. If not here, then hopefully next week or the week after. And, but obviously I think I'm playing well enough that I would like to have a good run here, but we'll see how it goes.
Messieurs, alors Vachek qui dit qu'il est très content d'être à Montréal. Ça a été un tournoi un peu. Vas-tu t'en sortir, Hugues?
C'est beau.
c'est un tournoi où il y a l'impression qu'à chaque année, il y a quelque chose de spécial qui se passe dans ce tournoi-là pour lui. Il y a toujours, ça a été un moment marquant, notamment bon l'année où il a fait la demi-finale contre Milos Raonic, on s'en souviendra. Il est très content d'être à la maison. Et puis, il est content aussi, je trouvais ça intéressant parce que il disait que ça a été déterminant dans le fait de devenir un joueur constant sur le circuit de l'ATP. Et Vachek, c'est quand même un joueur bien établi sur le circuit qui peut bien vivre du tennis maintenant. Alors, très content d'être à Montréal. On va le suivre. Moi, je l'ai fait avancer assez loin dans mon tableau. Est-ce que c'est un choix du cœur? Peut-être, parce que j'aime beaucoup Vachek. Et Nico, je sais que toi, tu l'aimes particulièrement également. Mais tellement intéressant de l'entendre, ce petit gars-là qui est encore passionné et qui va avoir réussi, qui a déjà, mine de rien, une belle carrière sur le circuit de l'ATP. Et petit mot avant qu'on passe à d'autres match-ups, contre Tommy Paul, ces deux joueurs classés assez près au classement. Aucun affrontement entre les deux chez les pros. Mais comme tu disais, Nico, je pense que Vachek doit remporter ce match-là. Il joue à la maison. Vachek est capable de battre. On l'a déjà dit, c'est un genre de giant slayer. Vachek Pospisil, il peut battre ces gars-là. Alors, ça va être intéressant. Et messieurs, l'autre match qui va être à surveiller du côté des hommes, tu en parlais tout à l'heure, Hugues, il faudra surveiller Braden Schnur. Et là, lui, c'est plus compliqué parce qu'il affronte celui qui a vaincu Rafael Nadal pas plus tard que la semaine passée, Lloyd Harris. Alors, ça va être tout un mandat pour Braden. Ce serait peut-être une surprise là, s'il devait battre Lloyd Harris. Mais qui sait? Tantôt, on en parlait. Ça peut être un avantage de jouer à la maison. Vous voyez comment ce match-up-là, les gars, ce matin?
Ben, ça peut être un avantage de jouer à la maison, oui, mais on vient d'en parler. Passe à travers les qualifications de manière assez exceptionnelle. Donc, un joueur avec confiance, on ne dira jamais assez, il n'y a rien de plus dangereux. Un joueur qui a un bon momentum, il n'y a rien de plus dangereux que ça. Donc, Lloyd Harris, peut-être aussi un peu sur un nuage là, depuis que le battu Nadal, peut-être arrive avec un peu trop de confiance et là, il se fait surprendre par un Canadien qui n'a rien à perdre. Je ne miserais pas tout mon argent sur une victoire de Lloyd.
Oui, j'ai les mêmes points que toi, Nico. Donc, momentum pour Schnur, beaucoup de confiance, gonflé à bloc sur son court, son home court advantage qu'il va avoir. Harris aussi, sûrement un peu adoubé encore par sa victoire contre Nadal. Je pense que la foule va porter Braden Schnur vers une victoire aujourd'hui.
Messieurs, petit élément d'information, là, Schnur et Harris se sont déjà affrontés, ils se connaissent, mais Harris avait remporté le seul duel qu'ils avaient joué entre les deux, c'était dans un tournoi de type Challenger, et c'était en mars 2019. Ça risque d'être compliqué un peu quand même, là, si Harris arrive avec la victoire, une victoire en poche déjà contre Schnur et une victoire, je le rappelle, contre Nadal la semaine passée. Et dans les matchs à surveiller aujourd'hui, les gars, je pense pas qu'on puisse passer sous silence Nick Kyrgios contre Riley Opelka. je vois l'excitation là, de Hugues. Ben, je te lance, j'imagine que tu vas être assis devant ton téléviseur ce soir pour regarder ça. C'est le match qui va conclure la journée, si je ne me trompe pas.
Quelle première soirée sous les projecteurs à Toronto ce soir. Donc, le match devrait être vers 8h30, 9h. Ça va être le match prime time. Donc, je m'attends à tout un spectacle. Là. Opelka, un serveur de feu. Ça va être, ça sera pas évident pour Kyrgios, mais je pense qu'on va avoir tout un spectacle, tout un show ce soir. We will be entertained, comme dirait notre ami Kyrgios. Donc, moi, je vais être devant mon écran, c'est certain, pour voir ce match-là. Et j'ai mis Kyrgios qui rentre avec une wild card dans ce tournoi comme favori pour passer ce premier tour.
Ah oui, hein?
Oui.
Ben, c'est pas très surprenant. Il peut. Mais j'ai hâte de voir. Moi, j'ai hâte de voir ce match-là. Parce que si Nick Kyrgios se décide de jouer, on va avoir tout un match. Riley Opelka, c'est un dur serveur. D'ailleurs, on parlait de Braden Schnur un peu plus tôt qui avait fait la finale à New York, si je me trompe pas. D'ailleurs, c'était contre Riley Opelka au Madison Square Garden, là, si ma mémoire est fidèle. Alors. Match-up bien intéressant. Nick Kyrgios est capable de nous en faire voir de toutes les couleurs. Alors, je vais regarder ça assurément. Et d'ailleurs, je vais ajouter l'affiche. Premier affrontement entre les deux. C'est incroyable quand même d'avoir Nick Kyrgios classé au 80e rang mondial, alors que c'est un joueur qui peut battre n'importe qui dans le top 10. Tu sais.
Mais je il n'a pas joué. Aucune défaite contre Djokovic. Deux victoires.
C'est
défaite, aucun set perdu contre Djokovic en carrière.
Et puis, il a battu Federer, il a battu Nadal, il a battu les plus grands. Ouais. C'est peut-être, je ne veux pas l'appeler un talent perdu parce que je ne pense pas que c'est ça, mais c'est certainement un des plus beaux talents de sa génération. Ça, c'est est-ce qu'il va, en guillemets, underachiever par rapport à son talent? Peut-être. Mais quand même, il va avoir marqué son époque. Il a déjà marqué son époque. Il n'est pas si vieux que ça.
Moi, je pense que c'est un choix de vie. Je respecte ça. C'est un gars qui vit sa vie comme il l'entend. Je fais un parallèle peut-être un petit peu boiteux, mais avec Yannick Noah, qui aurait pu être premier mondial, qui a gagné Roland-Garros en 83. Mais il a décidé que le niveau de performance et de sacrifice que ça prenait pour être numéro un, pour être au top de son talent, ça l'intéressait pas. Il voulait faire de la musique. Il voulait prendre une bière avec ses amis, il voulait s'amuser. Je pense que Kyrgios est dans ce mindset-là aussi. Donc, on doit prendre ce qu'il y a de bon à nous donner pour le tennis. Et il y a beaucoup de bon à donner au tennis, Nick Kyrgios, je pense, en ce moment, pour la popularité du sport. Et il n'y a pas de problème à ce qu'il soit peut-être pas top 10, tant qu'il nous donne des matchs magiques comme il l'a fait depuis quelques années.
Et messieurs, on va conclure avec ce qui va se passer à Montréal. Hein? Concluons par la maison. Ostapenko qui joue aujourd'hui, une de tes préférées, Nico.
Ben, c'est sûr en fait, ce que j'allais dire, Alex, sans te couper, là, c'est que mon tableau se joue ce soir. Notre poule se joue ce soir. Ostapenko et Badosa qui jouent ce soir, ça passe ou ça casse. Demain, je suis soit en pleurs ou pas dans le podcast.
Hugues, tu n'étais plus là quand on a fait les prédictions des femmes, mais puis je ne sais pas si tu as vu le tableau de Nico entre les deux, mais Nico est allé d'une prédiction. En anglais, on dit bold prediction. En français, ce serait prédiction audacieuse.
Une autre. J'ai envie de dire.
Oui. Nico, on n'a pas l'air de ça, mais il y a un petit âme, le gambler. Là. Un petit âme. S'il fallait qu'il mette de l'argent sur tous ses paris, je te dirais que, je ne sais pas, il serait soit vraiment riche, soit vraiment pauvre.
Exactement. Ruiné ou milliardaire.
Exact. Et tout ça pour dire qu'il a amené Badossa très loin. Effectivement, ton tableau se joue ce soir, Nico. Alors, match-up très intéressant entre Ostapenko et Siniakova. C'est pas si facile à prévoir que ça, ce match-là. Siniakova, oui, elle est une bonne joueuse de double, mais c'est quand même une joueuse qui a des armes en simple également. Puis Ostapenko, c'est une championne de Grand Chelem, mais difficile à prévoir. Et Sakari Buskova, ça devrait passer pour Sakari sans trop de problèmes. Et évidemment, on suit les deux Canadiennes en fin de journée entre Dart et Leila Annie Fernandez. Et ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Hugues, tu voulais ajouter quelque chose ici?
Vous savez que historiquement, les organisateurs du tournoi à Montréal et à Toronto aussi vont toujours faire belle place aux joueurs canadiens le premier soir du tournoi, quand les premiers favoris ne sont peut-être pas encore en lice pour jouer leur premier tour parce qu'ils ont un bail au premier tour. Donc, ils jouent le mardi ou même le mercredi des fois. Mais c'est souvent passé des choses magiques le premier soir pour les Canadiens et Canadiennes. Donc, soyez devant votre écran ce soir parce que, évidemment, moi, je pense que Fernandez va gagner son match contre Harriet Dart, l'anglaise. Mais attention à Rebecca Marino contre Madison Keys. Évidemment, Madison Keys part largement favorite pour ce match-là. Mais c'est ce genre de soirée où il y a des étincelles au stade IGA. Donc, soyez aussi devant votre écran pour ces matchs-là parce qu'il y a souvent des belles surprises canadiennes le premier soir du tournoi.
Et les gars, vous savez, on aime parler de double. Je regarde à la droite de l'écran. Il y a un match hyper intéressant entre Coco Gauff et Pegula en double contre Kudermatova et Rybanka. Coco Gauff et Pegula, deux joueuses excellentes en double. J'ai eu la chance d'avoir quelques matchs de Coco Gauff en double à Wimbledon. C'est électrisant. Cette fille-là, c'est un cerveau de tennis. Elle comprend la joute comme très peu de joueuses sur le circuit. Et si vous avez la chance de jeter un coup d'œil à ce match-là, c'est l'un des matchs que je vais surveiller avec le plus d'attention ce soir. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Surtout Pegula, on la voit pas jouer tant que ça en double. Une excellente joueuse de double aussi, Alex, tu peux en témoigner. Vraiment un match hyper intéressant entre ces quatre filles-là.
Messieurs, juste pour revenir sur un match-up canadien, on parlait de Vacek Pospisil tantôt qui a parlé aux médias. Fernandez a également parlé aux médias. Je vous propose qu'on l'écoute un petit peu avant de parler, avant de continuer la conversation.
Je suis très excitée. La dernière fois que j'ai joué ici à Montréal, c'était la deuxième ronde de qualif et l'ambiance était incroyable et j'aimerais bien retourner à cette ambiance. Et ici, c'est le meilleur tournoi que je peux jouer à Montréal avec les Québécois, les Montréalais qui viennent à nous supporter, les Canadiens, puis surtout moi, où j'ai grandi ici dans ces cours. Et j'espère que tout ira bien et j'espère de jouer jusqu'à dimanche. Non, je ne suis jamais satisfaite de ma progression, mais bien sûr, il y a des choses que je pourrais faire mieux. Mais maintenant, on oublie tout le négatif, puis on va juste se concentrer dans ce tournoi-là et on va prendre ça un match à la fois.
Honnêtement, je sais pas, mais je pense que j'ai grandi un peu mentalement puis émotionnellement. Je contrôle un peu plus mes émotions alors que quand je suis jeune. J'ai pas l'expérience de jouer un tournoi aussi grand comme ici à Montréal, mais je suis contente d'être de retour et d'avoir cette opportunité encore. Et bien sûr, j'espère de bien jouer, de donner un bon petit show aux Québécois. Oui, bien sûr que j'essaie de... Surtout durant les Billie Jean King Cup, Fed Cup avant, mais Billie Jean King Cup, on parle et je les demande des questions, ils me donnent des conseils. On est tous proches, alors je suis très chanceuse de les avoir là et de m'enseigner un peu plus la route.
Alors, messieurs, une jeune femme très posée, très candide, et elle espère jouer jusqu'à dimanche. On lui souhaite.
J'ai beaucoup aimé ce commentaire-là. Oui.
Ouais. Et d'ailleurs, props à nos gars de médias sociaux. D'ailleurs, c'est la clip qu'ils ont mis sur nos médias sociaux. Nico, je sais que tu es en background. Bravo pour ça et merci d'avoir choisi cette clip-là. Excellent choix. Il y avait peut-être une question qui pouvait porter à confusion là, quand elle disait « Oui, les gens m'aident en Billie Jean King Cup, Fed Cup. » Elle répondait à une question sur est-ce que les joueuses canadiennes qui ont beaucoup d'expérience, sous-entendu Bianca Andreescu, Rebecca Marino, etc., l'ont aidé, l'ont pris sous son aile et la réponse à ça, c'était oui, particulièrement dans ce genre de compétition-là. Et ben là, possiblement au deuxième tour, l'amitié va faire place à la rivalité parce que si Léla passe son premier tour ce soir, ce qui est très possible, on en parlait un peu plus tôt, on verra un match tout canadien entre Bianca Andreescu et Léla Annie Fernandez. Les paris sont ouverts. Très difficile à prévoir. Je pense que, et c'est dommage parce que c'est une partie de tableau qui est un peu complexe du côté des femmes, mais je pense que la gagnante de ce match-up-là a des chances d'aller assez loin dans le tournoi.
Oui, ouais. Je pense aussi. Ouais.
Donc, messieurs, à surveiller ce soir, je répète, Léla Annie Fernandez est en action, Rebecca Marino également. Tantôt, on parlait du double du côté des hommes. Vous pouvez surveiller également Félix Auger-Aliassime. Il est en double avec son meilleur ami, Alexis Gallarno, et un des chouchous du podcast. C'est lui qui est venu le plus souvent au podcast Sur la ligne, le podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Messieurs, je vous remercie infiniment pour cette première journée et cette première émission de mise en bouche de l'Omnium Banque Nationale. Premier jour du tableau principal aujourd'hui. Messieurs, je vous laisse aller écouter du tennis toute la journée. Ne dérogez pas de votre écran. Nico, mot de la fin.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon Omnium. Hey, on va refaire ça. Bon Omnium Banque Nationale à tous. On se retrouve bientôt.
Bonne semaine.
Merci.